France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Pas de révolution donc, et surtout pas d'affolement, pas de confinement, pas de jauge, pas de couvre-feu. Le Premier ministre est en train de le dire lui-même dans sa conférence de presse. Pour l'instant, on tient sans bouleverser intégralement nos vies, quoique les discothèques vont fermer pendant 4 semaines. De leur point de vue, c'est un vrai bouleversement. Dans les écoles, protocole plus strict, mais pas drastiquement. Nous entrons en protocole 3, puisque c'est là que le virus galope de façon inquiétante. Ça veut dire retour du masque à l'intérieur et à l'extérieur, limitation du brassage à la cantine. Mais pour les enfants qui pensaient gagner une semaine de vacances, eh bien désolé, les enfants, ce sera non. Et puis, la vaccination des enfants est bien sur la table. Elle pourrait être ouverte avant la fin de l'année, mais la Haute Autorité de Santé n'a pas encore donné son avis. La porte, en tout cas, reste du côté du gouvernement bien ouverte. C'est ce qui suscite d'ailleurs la plupart de vos questions qui sont déjà très nombreuses. On y viendra, bien sûr. Incitation aussi à la vaccination pour les adultes. Vous pourrez désormais entrer dans un centre si vous avez plus de 65 ans sans rendez-vous. Restreignez-vous évidemment sur les petites fêtes au bureau, mais le télétravail pour l'instant est juste conseillé 1 à 2 jours. Il n'est pas imposé. Voilà à peu près l'essentiel des mesures dont on parle ensemble au téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier ce soir, c'est vous, Sylvain. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Sylvain.
Bonsoir. Merci de prendre ma question. Je vous appelle, je suis pour le vaccin, je suis vacciné, je suis conscient des effets bénéfiques du vaccin, où on voit clairement, grâce aux données fournies par le gouvernement, la santé publique, le ratio qui diminue des gens en soins hospitalisés avec l'augmentation des doses de vaccins. Donc pour moi, c'est prouvé, ça fonctionne, ça élimine les formes graves. Par contre, avec toutes ces données qu'on a de dispo, qui sont disponibles à tout le monde, on voit aussi que les enfants depuis 2 ans, ou même les moins de 20 ans, sont très peu touchés. Il y a moins de 10 morts ou 10 morts d'enfants de moins de 10 ans depuis 2 ans. Et on montre aussi, avec tout ce qui se passe en ce moment, que le vaccin n'empêche pas la contamination. Du coup, la question, elle est juste simple. Pourquoi vouloir vacciner les moins de 10 ans, même les moins de 20 ans?
Eh bien, je trouve que votre question est frappée au coin du bon sens. Merci beaucoup, Sylvain, pour y répondre et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Odile Lenay est avec nous, bonsoir. Vous êtes infectiologue, membre du comité scientifique vaccin Covid-19 et nous sommes avec Hervé Haas. Bonsoir, monsieur Haas.
Bonsoir.
Vous êtes pédiatre infectiologue au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. L'un et l'autre pour cette question. D'abord, vous en êtes où, vous, l'un et l'autre? Odile Lenay, vous êtes plutôt, oui, il faut ouvrir aux 5-12 ans, ou vous êtes plutôt, on attend encore? Vous êtes sur quelle
Moi, j'étais assez réservée parce que, comme l'a dit notre auditeur, les enfants font de façon très exceptionnelle des formes graves et qu'on avait jusqu'à présent peu d'informations sur la sécurité de ces vaccins, qui sont des nouveaux vaccins dans cette tranche d'âge. Aujourd'hui, ma position évolue parce que on a des données qui nous viennent des pays qui ont commencé à vacciner ces enfants, en particulier les États-Unis où ils ont vacciné plus de 5 millions d'enfants, les Canadiens également, les Israéliens, l'Italie. Donc, tous ces pays vaccinent et il ne semble pas qu'il y ait de problème particulier avec ces vaccins. Et donc, même si le nombre de formes graves reste très faible, même si le nombre de décès est très faible, il semble que la balance bénéfice-risque va maintenant être pour la vaccination de ces enfants.
Mais est-ce que réellement, qu'est-ce qui se passerait si on laissait le virus circuler chez les enfants, considérant qu'ils ont en phase 2 une population maintenant qui est très massivement vaccinée? Qu'est-ce qui se passerait en fait?
C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les enfants...
Il y a des taux d'incidence parfois à 1500 pour 100 000 cas, c'est énorme.
C'est énorme.
Ça galope
donc,
vraiment
voilà,
à la vitesse.
Donc les enfants vont tous, un jour ou l'autre, être en contact avec ce virus. Et donc, finalement, même si le risque de faire une forme grave, il est extrêmement faible, il n'est pas nul. Et il y a des risques de forme grave, il y a des risques de décès. On en a eu très peu, mais il y en a eu. Et si en échange, finalement, on a un vaccin qui est bien toléré, sans problème dans ces populations, le bénéfice-risque, il va être maintenant au bénéfice de la vaccination, avec en plus, potentiellement, quand même un effet sur la circulation du virus. Parce que ce vaccin, il marche pas très bien sur la transmission, mais il est très efficace. Donc, quand on n'est pas infecté, on transmet pas. Une fois qu'on est infecté, on transmet, et le risque est pas zéro, mais on transmet moins que quand on est infecté et qu'on n'a pas été vacciné. Donc, ça, c'est aussi un impact positif sur la circulation du virus.
Hervé Haas, vous, le pédiatre infectiologue, il en dit quoi? Est-ce que vous êtes plutôt favorable? Est-ce que vous êtes toujours un peu sceptique? Vous en êtes où, vous?
Là, je partage complètement ce que vient de dire Odile Launay, et ce, à tous les points, donc je ne vais pas revenir là-dessus, c'est, on est en totale adéquation. Y a une réalité, c'est que plus on va avoir d'enfants qui vont être en, en contact avec le virus, mécaniquement, mathématiquement, on va augmenter le nombre de cas où on pourra avoir des complications. Alors, pas tellement en phase aiguë, ce qu'il faut comprendre chez l'enfant, le risque, il n'est pas comme chez l'adulte, de faire une forme pulmonaire sévère, telle qu'on la connaît, avec des réanimations. Il y a plutôt des formes inflammatoires qui sont révélées 3 ou 4 semaines après. Elles sont rares, mais elles existent. Et plus on va avoir d'enfants qui vont être en contact avec le virus, et mathématiquement, on va augmenter le nombre de cas avec ce qu'on appelle les fameux PIMS, syndrome multi-inflammatoire. Donc, effectivement, on a été, au niveau de la Société française de pédiatrie en particulier, plutôt dans l'attente, de voir comment les choses allaient se passer sur le plan de la l'immunogénicité, bien évidemment, c'est-à-dire l'efficacité du vaccin, mais surtout la tolérance. Et comme a dit, l'a dit Odile Launay de manière très très précise, on a maintenant assez d'informations pour être rassuré et nous dire qu'on peut y aller beaucoup plus sereinement. Après, il faut qu'on installe ça dans les temps qu'il faut, notamment pour les enfants les plus vulnérables. Et puis après, organiser pour tous les enfants après, je pense qu'on aura peu de chances, entre guillemets, de passer à côté de cette vaccination chez l'enfant.
Odile Launay, est-ce que, au fond, est-ce que l'idée derrière cette idée, c'est pas aussi, au fond, d'arriver vers cette fameuse immunité collective dont on nous parle depuis très longtemps? Si on inclut les enfants, on arrivera à un taux de vaccination globale de la population qui va de toute façon être beaucoup plus haut. Derrière cette vaccination, il y a aussi ça, non?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 90% de la population éligible au vaccin, c'est-à-dire des 12 ans et plus qui sont vaccinés. Et qu'on est à peu près à 76% de la population immunisée. Donc, si on ouvre la vaccination plus largement, on va augmenter effectivement la proportion de la population immunisée et moins à risque de faire une infection et de faire circuler le virus. Donc, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et c'est les motifs qui ont décidé les pays qui ont déjà lancé cette vaccination à le faire.
Si on laissait circuler, est-ce qu'il y aurait un risque supplémentaire de générer un variant, une mutation ou quoi que ce soit de ce genre, si on décidait, ce qui est le cas de beaucoup de pays pour l'instant, sauf effectivement, vous le disiez, Israël, les États-Unis notamment, si on laissait ce virus circuler, est-ce que c'est générateur potentiellement d'une mutation qui peut être problématique?
Alors, c'est toujours le risque, mais aujourd'hui, on a plutôt des arguments qui nous laissent penser que la génération de ces variants, elle se fait chez des gens qui ont un système immunitaire qui est un peu défaillant et qui finalement vont excréter de façon prolongée ce virus qui va être soumis à un système immunitaire insuffisant et qui va favoriser en fait l'émergence de ces variants. Encore une fois, ça reste des hypothèses et des hypothèses de travail.
C'est une des hypothèses notamment parce que le variant là vient d'Afrique du
Sud.
Voilà,
le variant Omicron par exemple, c'est un variant qui vient d'une région du monde où il y a des immunodéprimés, puisque le VIH est assez fréquent et malheureusement les traitements pas toujours accessibles. Mais toute circulation du virus peut engendrer la survenue de variants potentiellement moins sensibles au vaccin ou à l'immunité qu'on a pu acquérir avec une infection antérieure.
Si tout le monde était vacciné, double dosé et en route pour un triple dosage, est-ce qu'on aurait besoin de se poser la question des enfants sérieusement ou pas?
La situation sera peut-être un tout petit peu différente dans la façon de mettre le pour et le contre. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la vaccination Covid, elle nécessite pas 2 doses, mais 3 doses, un schéma en 3 doses. On a peut-être pris un tout petit peu de retard pour mettre en place cette 3e dose, puisqu'on avait eu déjà les éléments de ce qui se passait en Israël, où ils ont été confrontés très rapidement à la baisse d'efficacité. Et puis, il reste toujours ces 10% d'adultes, y compris des personnes à risque, comme des transplantés ou des dialysés, qui sont toujours pas vaccinés. Et là, pour les protéger, effectivement, il faut absolument faire diminuer la circulation du virus.
RVS, je veux surtout pas que vous ayez le sentiment qu'on vous met en situation de consultation, on va dire, mais j'ai sous les yeux un mail qui me paraît absolument dingue. C'est un monsieur qui s'appelle Daniel et qui nous dit « Mon petit-fils a 6 ans, il est positif à la Covid depuis presque un mois testé tous les deux jours. Il n'a pas été malade, sauf une petite toux. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est courant? Et il nous dit aussi, de fait, il ne peut pas aller à l'école, puisque évidemment le médecin traitant ne sait pas quoi faire. La sécu ne répond pas. Et il nous dit, la mère pète les plombs face à ce vide sanitaire, on la comprend. Et je vous remercie, nous dit-il. Est-ce que vous avez déjà vu un cas comme celui-là d'un enfant qui est positif pendant tout un mois, alors qu'il a eu une petite toux et rien d'autre?
Bien, en fait, si vous faites des tests, je dirais presque chez toute personne qui aura été infectée à un moment ou à un autre, avec la technique que l'on a, la technique de PCR qui est d'une sensibilité, c'est-à-dire une efficacité pour repérer des fragments de virus, effectivement, vous pouvez en trouver. Le fait de trouver des fragments de virus par la PCR, ça ne veut pas dire que vous avez du virus vivant qui se multiplie. Donc cet enfant, il peut très bien avoir, dans ses muqueuses nasales en particulier, du virus ou des morceaux de virus morts qu'il a lui-même fini par éliminer, mais qui sont encore présents là. Donc le fait d'avoir une PCR positive un mois après n'a strictement aucun intérêt. De faire un test tous les deux jours chez cet enfant, ça n'a strictement aucun intérêt.
Mais le pauvre, c'est parce qu'il a besoin de ce négatif pour pouvoir retourner à l'école, mais, en fait. C'est là le trou dans la raquette.
Exactement, vous l'avez dit. Ça n'a pas d'intérêt d'aller demander, même après 10 jours, à quelqu'un qui n'est plus symptomatique, d'aller faire une PCR pour retourner en collectivité. Ça n'a aucun sens.
Ah ben voilà,
ça n'a aucun sens.
Donc, test après 7 jours, test tout ça. À partir du moment où on n'est plus malade, on n'a plus de symptômes, j'ai l'impression d'être revenu au tout début de la pandémie quand on disait ça, hein, c'est terrible. Mais RVS, donc il faudrait que notre ami Daniel aille dire à l'école, ça sert à rien, mon petit-fils n'est plus malade en fait.
Exactement. S'il n'était plus symptomatique, qu'il a bien pendant 10 jours été chez lui, et bien évidemment qu'il n'a pas été de nouveau en contact avec d'autres personnes positives qui pourraient très bien lui redonner du virus même s'il n'est pas malade. Donc s'il respecte bien cet isolement pendant 10 jours, il peut retourner en collectivité au bout de 10 jours. Bon. Ça, c'est une réalité.
Mais est-ce que c'est rare quand même d'avoir toujours, vous nous avez expliqué le coup des muqueuses, où parfois il y a encore des traces de virus morts, comme vous dites, ça c'est régulier ou il y a des gens qui sont plus sujets à ça que d'autres?
Alors, je peux pas vraiment vous répondre à ça parce qu'on va pas tester les gens.
Certes, oui,
tous les 15 jours. Ça n'a, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de sens. Donc, à partir du moment où, c'est vrai que chez les enfants, au tout début de la pandémie, comme vous l'avez dit, on ne savait pas très bien où on allait et on s'est rendu compte qu'en testant tous les 15 jours, on a des enfants au tout début qui, un mois et demi ou deux mois après, avaient encore, dans leur nez ou dans leur selle, dans leur tube digestif, des PCR qui étaient positifs. Et on s'est rendu compte que ça n'avait aucun intérêt. D'abord pour traduire et non seulement la maladie, mais en plus leur contagiosité. Donc parce que c'était pas des virus vivants, mais on n'est pas capable en routine d'aller faire des tests pour voir si le virus se multiplie. Mais on s'est rendu compte qu'au bout de 10 jours, l'immunité chez quelqu'un qui est immun correctement, il élimine le virus. C'est une certitude. Donc ça n'a pas d'intérêt.
Écoutez, j'espère que l'école de ce petit bonhomme nous a entendu pour qu'il puisse enfin retourner à l'école et que sa mère pourra à nouveau ne pas péter les plombs, comme dit son père. Merci beaucoup. Annie est dans les Ardennes. Bonsoir Annie.
Oui, bonsoir. Oui, moi j'appelle parce que...
Alors attendez Annie, attendez. Enlevez le haut-parleur ou approchez-vous de votre téléphone, mais là j'ai l'impression que vous nous appelez depuis beaucoup plus loin que les Ardennes.
Alors,
ça va beaucoup mieux, absolument. Bon, on vous écoute.
Bien, merci. Oui, j'appelle parce que effectivement, mon fils est animateur périscolaire, et donc moi, je suis étonnée qu'aucune obligation vaccinale ne soit portée auprès de ces personnels, puisqu'en fait, pendant le temps de pause méridienne, les animateurs déjeunent avec les enfants. Donc, par rapport au risque 3 qui est mis en place, où les enfants doivent rester sans le masque à l'extérieur, dans la cour de récréation et bien sûr a fortiori à l'intérieur. Il me semble qu'il y a quand même, en reprenant l'expression que vous venez d'employer, un sacré trou dans la raquette, puisque au moment précis du déjeuner, en fait, il y a des adultes qui n'ont pas d'obligation vaccinale qui déjeunent avec les enfants. Donc effectivement, ils peuvent être contaminés, il y a un fort risque de contamination par les enfants pour ces personnels qui sont très peu représentés que corporation de personnel, puisque ce sont des personnels précaires. Et puis, ils peuvent aussi contaminer, le cas échéant, notamment les enfants. Donc, je suis étonnée que cet aspect ne soit pas du tout pris en compte.
Merci beaucoup, Annie. Odile Lenay, avec le recul que nous avons désormais sur ce virus depuis 2 ans et tout ce qui a été mis en place, est-ce qu'il faudrait effectivement revenir en arrière et refaire un tour? Voilà où l'obligation doit être imposée, voilà où elle l'est moins. Est-ce que vous en dites?
Je crois qu'aujourd'hui, toutes les situations,
on a passé ce stade.
Toutes les situations sont à risque d'être exposées au virus, et actuellement, le virus circule de façon extrêmement importante. Donc, on a rendu obligatoire la vaccination des soignants et des personnes qui sont au contact de personnes fragiles de par leur profession. On ne considère pas que les enfants sont des personnes fragiles. Donc après, c'est vrai que ces éducateurs ou ces devraient par eux-mêmes comprendre le risque qu'ils prennent en n'étant pas vaccinés. Mais je crois que ça va faire presque un an maintenant qu'on essaye de faire de la communication et de l'éducation à ces vaccins, à expliquer pourquoi ils sont importants, et que malgré tout, il reste une frange de la population qui reste très réfractaire, et que la question qui se pose dans d'autres pays, avec des décisions qui peuvent paraître autoritaires, est de rendre obligatoire cette vaccination. En France, on n'en est pas là, mais je pense que c'est pas possible aujourd'hui d'identifier toutes les professions. Je crois que toutes les professions en contact avec le public sont des professions qui exposent au risque d'avoir un Covid.
RVS, dans le protocole 3 qui est maintenant de mise dans les écoles, il y a effectivement masque à l'intérieur, masque à l'extérieur, il y a faire attention à la cantine, etc. Mais en revanche, on ne change rien sur tout élève qui est négatif peut retourner à l'école, y compris lorsqu'il a été cas contact. Est-ce que ça suffit, selon vous, pour essayer de ralentir la circulation à l'intérieur d'une classe ou d'une école?
Bien, ça fait partie de l'arsenal, comme vous l'avez dit. On parle des personnes qui travaillent autour des enfants. L'important, c'est de réduire la circulation du virus. Donc, tous les moyens peuvent être utiles. L'enfant, quand il a été isolé pendant 7 à 10 jours et qu'il il a bien respecté ce confinement, entre guillemets, pour retourner à l'école, parce que c'est important pour lui, mais il faut effectivement aussi que les adultes qui sont autour de lui, entre guillemets, jouent le jeu aussi. Et on ne pourra pas demander demain aux enfants qui sont à faire des formes graves beaucoup plus faibles que chez les adultes, de se faire vacciner si les adultes qui sont autour d'eux ne se vaccinent pas non plus. Très cohérent.
Là-dessus, on est d'accord. Mais est-ce que fermer une classe, par exemple, vous aurait semblé plus judicieux, ou est-ce que c'est pas la peine d'aller jusque-là?
Moi, je trouve que c'est excessif de fermer les classes. On s'aperçoit qu'effectivement, l'impact aussi de la fermeture de la classe sur l'apprentissage des enfants, sur leur comportement psychologique, etc., est beaucoup plus important que le fait qu'il y ait du Covid chez les enfants. Je ne dis pas que ça n'est pas important, le fait que le Covid circule chez les enfants et dans les familles, bien évidemment. Mais on pèse le pour et le contre, et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, et on l'a déjà bien démontré, c'est que l'enfant se contamine beaucoup moins à l'école qu'au sein même de sa famille. Donc plus il restera à l'école, moins il aura de risques d'être contaminé.
Ce qui est fou, Odile Lenay, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui était, tout ce dont on parlait beaucoup au début de la pandémie, dans des vagues qui ont pu être inférieures à cette cinquième vague, si on exclut la première, on était dans isolé, tracé, etc. Tout ça a été complètement oublié, on n'en parle quasiment plus, on le fait beaucoup moins. Un peu comme si au fond, peut-être qu'à ce stade-là, c'est tellement plus compliqué de demander ça aux gens, ce qu'on peut tous comprendre, je crois. Mais est-ce qu'on a on a gardé certains réflexes, on est masqué, vous et moi, désormais à nouveau dans le studio, mais il y a d'autres réflexes qu'on a perdus, qu'on a
plus. Je crois que le variant Delta, il est tellement contagieux qu'il est devenu impossible aujourd'hui de faire cette...
Donc ça servira à rien, en fait.
C'est pas que ça servira en rien, mais on n'a pas les moyens de le faire. Mm-hmm. Donc on peut plus le faire. Alors, c'est pas exclu qu'on soit obligé de le remettre en place si un nouveau variant arrivé, ce qui est le cas aujourd'hui avec le variant Omicron, et on essaye justement avec Omicron d'être particulièrement vigilant, mais malgré ça, c'est
Sauf
extrêmement
Omicron,
difficile.
Visiblement, est plus contagieux, moins pathogène, mais plus contagieux.
On n'a pas encore toutes les informations sur ce variant Omicron, qui bien sûr inquiète beaucoup. Les éléments qui semblent aujourd'hui, mais encore une fois, il faut, je pense, rester très prudent, qui semblent émerger, c'est que potentiellement, il serait aussi contagieux, voire plus contagieux que le Delta, mais peut-être un peu moins virulent, un peu moins grave. Donc ça serait ça une bonne nouvelle, mais il y a en suspens la question de savoir si il va être bien prévenu par la vaccination ou par une infection préalable. Donc on est encore dans beaucoup d'incertitudes, ce qui explique qu'aujourd'hui on met en place les mesures pour essayer de ben là pour le coup de tester, d'identifier ces variants et ensuite de les tracer.
Mais quand on entend BioNTech aujourd'hui qui dit déjà qu'il faudra modifier le vaccin, est-ce qu'on se dit oui, de toute façon c'est normal, ce vaccin sera modifié tout le temps, ou est-ce qu'on s'inquiète?
Non, on se dit que heureusement on a des vaccins qui peuvent être adaptés assez rapidement, plus que pour des vaccins standards. Et que là, dans le doute, il faut tout mettre en route pour pas prendre de retard. Mais ça avait été fait pour le variant Beta, par exemple, qui était déjà un variant qui a émergé en Afrique du Sud. Et finalement, les industriels n'ont pas eu besoin de développer plus avant ce variant-là. Avec Omicron, c'est un petit peu la même approche. Pour l'instant, ils démarrent. Et ils vont voir, en fonction des résultats qu'on aura, s'il faut aller plus loin.
On est d'accord qu'il nous manque plein d'infos sur Omicron, notamment effectivement sur la réalité de la contagion, de son côté très pathogène ou moins pathogène, de savoir comment les vaccins réagissent. Pour l'instant, ça, on n'a pas d'infos qui sont extrêmement fiables. Mais Odile Lenné, est-ce qu'on peut dire sans se tromper qu'il y a zéro chance, ou quasiment pas, pour que les vaccins soient inefficaces là-dessus? Peut-être qu'ils peuvent baisser en intensité, jamais être inefficaces. Est-ce qu'on peut dire oui, ça c'est une certitude ou non?
Moi je mettrais pas ma main à couper pour ça. Ce qu'on espère, et les premiers résultats montrent que très probablement on va garder une efficacité en tous les cas pour les formes sévères. Ce qu'on a vu avec le variant Delta. Le variant Delta, il y a eu une baisse très nette de l'efficacité sur les formes symptomatiques, ce qui explique qu'aujourd'hui on voit circuler le virus, y compris chez des gens qui sont vaccinés. Par contre, et ça on le voit très très bien à l'hôpital, les formes graves et les formes hospitalisées aujourd'hui sont majoritairement des personnes vaccinées, même si on a aussi des formes graves chez des vaccinés, mais souvent chez des gens qui sont à distance de leur deux premières doses, qui n'ont pas eu la troisième dose, ou chez des personnes qui sont particulièrement fragiles.
D'où la demande d'accélération, on va dire aujourd'hui, de Jean Castex autour de ça. On a cette question de Marie qui est à Lyon, qui dit « Je suis dans la région lyonnaise, on essaye tous de se faire vacciner, mais il n'y a pas assez de rendez-vous, pas avant le mois de février en tout cas. Il faudrait mettre plus de centres et il faudrait donc mettre plus de centres de vaccination. » Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, mais honnêtement, Odile Lenné, moi je m'interroge et je me demande pourquoi, à partir du moment où on envoie les gens vers une troisième dose massive, du coup on n'ouvre pas des centres à la hauteur tout de suite de ce qu'avait été la vaccination deuxième dose.
Je crois qu'il y a des difficultés logistiques, c'est-à-dire qu'on est en difficulté aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les structures de soins, et que les infirmières et voire les médecins qui avaient été recrutés dans des centres de vaccination, on a essayé de les faire revenir à l'hôpital pour pouvoir absorber ces nouveaux cas, ne pas mettre en jeu la prise en charge des autres patients, parce qu'on n'a pas encore complètement récupéré les interventions qui ont dû être reportées, voire annulées. Donc c'est toute la difficulté, et de trouver un bon équilibre entre l'offre de soins pour la vaccination et l'offre de soins pour les gens qui ont une pathologie qui nécessite d'être prise en charge, y compris les Covid, qui arrivent là avec maintenant plus de 2000 personnes en soins intensifs.
RVS, avant qu'on retourne au standard, s'il y a vaccination des enfants de manière massive, est-ce que ça marche à combien de doses? Que font les Américains et les Israéliens?
Là, c'est ce qu'il va falloir voir, justement. Pour l'instant, ils étaient sur un schéma à deux doses. La question, c'est que on a besoin encore d'informations sur la durée de persistance des anticorps. On est quand même sur un terrain avec des enfants qui répondent beaucoup mieux au vaccin. D'ailleurs, ils utilisent un vaccin qui est moins dosé, trois fois moins dosé en ce qui concerne le Pfizer. Et donc, les enfants répondent aussi bien avec une quantité d'antigènes trois fois moindre. Donc la question qui va se poser après, c'est combien de temps ces anticorps vont persister dans le temps avant de décider de faire ce qu'on appelle un booster, c'est-à-dire un rappel. Donc on a besoin d'avoir ces informations, elles vont arriver dans les jours qui viennent. On y verra probablement beaucoup plus clair dans les 15 jours pour savoir quel est le schéma qui est le mieux adapté.
Ce qui risque
quand même d'être fait aux États-Unis en Israël peut être modifié en ce qui nous concerne.
Ce qui risque quand même d'être compliqué, monsieur Haas, parce que comme la plupart des enfants sont certes touchés mais asymptomatiques, comment on va savoir en fait?
S'ils ont déjà été en contact au préalable,
S'ils ont déjà été en contact, s'il y a une vraie efficacité, apparemment ils sont pas malades, on saura pas s'ils ont été recontaminés même s'ils sont vaccinés.
C'est vrai que là où on verra probablement un impact, c'est sur la circulation du virus. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, mm-hmm. ce ne sera pas sur le nombre de cas d'enfants qui vont arriver avec des symptômes, comme vous l'avez parfaitement dit. Ce sera probablement grâce au dépistage, on n'en a pas assez parlé. On a des outils de tests, notamment des tests au niveau nasal, qui sont faciles à faire et qui nous permettent, à condition d'être répétés régulièrement, de repérer un certain nombre de cas positifs. Alors, c'est pas des outils à visée diagnostique pour des enfants qui seraient symptomatiques. Hein, l'objectif, c'est pas de dépister tous ceux qui sont véritablement positifs, mais de faire des tests régulièrement pour repérer un certain nombre d'enfants positifs. Et là, on va voir si ces tests sont mis en place, la circulation du virus évoluait dans le temps.
Avant de poursuivre cette conversation, je voudrais qu'on joigne au téléphone Patrick Malvaez qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Malvaez. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'il est là Monsieur Malvaez? Eh ben, je crois qu'il n'est pas là, c'est pas grave, on va le rappeler dans une seconde. En attendant, voici Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue Pierre.
Merci de m'accorder votre antenne, je suis un féru de France Inter. Je souhaitais poser une question extrêmement simple. Je suis un cas de Covid, bien que doublement vacciné Pfizer, mm-hmm. il y a moins de 5 mois, et je fais une forme grave, car asthmatique. Mais je voulais savoir par rapport à mon fils, qui s'appelle Samuel, mm-hmm. si je pouvais être contaminant vu que je serai positif pendant 2 mois si j'ai bien compris la médecine. Je voulais aussi réagir à une parole qui a été dite et qui m'interpelle fortement, c'est les modes de transmission. Je pense qu'ils sont plus nombreux qu'estimés. Je vous donne un exemple, les écoles de musique. Comment fait-on quand on joue en 4 mains sur un piano? On désinfecte les mains de chacun, mais le temps que l'on joue, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Le virus passera de toute façon dans notre système. Mmh.
On va poser la question à Odile Lenné. Alors, 2 choses dans l'ordre. D'abord, avec le Covid long de ce pauvre Pierre qu'on entend tousser, et difficile parce qu'il est asthmatique, le risque pour son fils ou sa fille, son fils,
oui. Votre
fils.
Alors, d'abord, le vaccin ne marche pas à 100%. Donc, vous dites que vous avez fait un Covid relativement sévère alors que vous n'étiez pas à 5 mois de la deuxième dose. Bah, vous faites malheureusement, vous êtes dans la portion des gens qui sont en échec vaccinal malgré une vaccination bien conduite. La durée de l'excrétion du virus, elle n'est pas de 2 mois. Je pense qu'il y a eu un malentendu dans ce qu'a dit Hervé Haas. En fait, ce qu'il a dit, c'est que si on cherche avec des techniques très sensibles la persistance de résidus du virus, on peut en trouver longtemps.
Il a dit on trouve du virus mort.
Du virus exactement. Mort, voilà. Mmh. Mais après 10 jours... sauf cas très particuliers, chez des personnes qui restent très symptomatiques et où on retrouve du virus à titre élevé, à partir du 10e jour, ce qui aujourd'hui justifie la quarantaine de 10 jours, on n'est plus contagieux avec ce virus. Donc je crois qu'il n'y a pas non plus d'inquiétude. Alors concernant votre exemple de jouer à 4 mains, donc évidemment, il faut conseiller, recommander aux gens de se laver les mains, avant, après, et peut-être particulièrement après, mais ce virus ne se transmet pas, ne passe pas la barrière cutanée. En fait, il faudrait avoir porté la main à la bouche, bon, ce qui est tout à fait faisable. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les règles d'hygiène simples, hein, qui sont se laver les mains avant, après, enfin le plus souvent possible. Et puis, garder le port du masque. Mmh. Et dans ce cas-là, que les deux pianistes gardent un masque pendant toute la durée du morceau de musique.
On est bien d'accord, Hervé Haas, pour que les choses soient très très claires pour tout le monde. Il n'y a eu aucun changement dans les modes de transmission. On n'a rien découvert de plus ni de particulier dans les modes de transmission, histoire de couper cette idée rapidement.
Ah non, pas à ma connaissance. Les modalités de transmission du virus sont connues depuis le début. Et les gouttelettes, la transmission par voie aérienne, évidemment, par voie aussi oculaire, il faut pas l'oublier, mm-hmm. c'est possible. Et évidemment, par nos mains. Et le port du masque a un double intérêt, de protection par en empêchant l'expulsion des gouttelettes, mais ça aussi, ça empêche qu'on mette nos doigts dans nos nez et dans notre bouche. Et ça, c'est aussi une réduction de la contamination.
On a retrouvé Patrick Malvaès. Bonsoir, monsieur Malvaès.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Et je disais tout à l'heure, en introduction de ce téléphone sonne, qu'il n'y avait rien de révolutionnaire ni de bouleversant dans les annonces de Jean Castex, sauf pour vous, en effet. Pour vous, ça va durer 4 semaines. Vous êtes ceux qui avaient rouvert le plus tardivement, parce qu'effectivement, c'était compliqué avec la promiscuité à l'intérieur de vos établissements. Je peux imaginer que vous êtes sonné ce soir un peu.
On est sonné, oui, mais on est habitué aux inconséquences depuis le début de cette crise. Depuis le moment où on nous a dit que les masques ne servaient à rien, et aujourd'hui tous les discours que j'entends, bon voilà, on est assez loin de ce que disait d'ailleurs en son temps. Donc bon, c'est des allées venues sans arrêt. Maintenant, les discothèques, il faut donner en pâture une victime expiatoire. C'est les discothèques, c'est facile. Maintenant, il y a des mesures qui auraient pu être prises plus tôt et qui eussent été beaucoup plus intelligentes et opérantes. Si on veut vraiment lutter contre la propagation du virus, le comportement que l'on a eu envers le milieu scolaire, universitaire, etc. est proprement aberrant. Et maintenant, on commence à dire qu'il va falloir vacciner les enfants de 5 à 12 ans. Bon, ça m'amuse beaucoup. Mais il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte qu'avant, on pouvait le faire. Quand on voit que dans certains lieux recevant du public, on demande le pass sanitaire sans demander les pièces d'identité. Il n'y a qu'en discothèque où on exige des pièces d'identité. Tout le monde se passe le pass du voisin ou de la fille ou du père. C'est assez ridicule. Maintenant, si c'est les discothèques qui ouvrent le samedi soir, qui sont dans la propagation du virus, effectivement, il faut les fermer. Ça, c'est absolument évident. N'aura pas du tout l'effet de quoi que ce soit. Ça, c'est bien évident que c'est pas au milieu des discothèques qu'il y a eu cette propagation. Alors, il y a eu une étude. Oui. Il y a un effet pervers quand même à cette mesure.
Allez-y, je vous écoute.
Il y a un effet pervers à cette mesure, qui est, c'est une incitation puissante à ce que tout le monde fasse des fêtes entre amis ou dans des lieux, etc. Donc la propagation du virus va être bien pire. Alors j'ai bien vu qu'il y avait une reprise, une ressucée, dirais-je, de l'Institut Pasteur d'une étude qui était en anglais, qui est improprement interprétée, qui a fait une étude sur la propagation, soi-disant, dans les lieux festifs. Mais ce qui est mis en cause, c'est pas les discothèques. Cette étude a été menée entre mai et le début du mois d'août. Les discothèques ont ouvert le 9 juillet. Il n'y avait que 20% des discothèques ouvertes, donc elle était improbable en ce qui nous concerne.
Patrick Malvaès, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, j'imagine que vous avez essayé de proposer un contre-protocole ou quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, pour dire, chez nous, on fait extrêmement attention. Est-ce que vous vous dites, on aurait pu proposer plus, s'il le faut, avant fermeture?
Non, pas du tout. Je pense qu'on ne pouvait absolument pas dire ça. On a fait tout ce qu'il fallait jusqu'à présent. Et il n'y a absolument rien, à mon avis, qui a failli dans notre système en ce qui concerne les établissements de nuit, les clusters. Il n'y en a pas eu chez nous, plus qu'ailleurs. Il y en a même beaucoup moins que dans les abattoirs, par exemple. Donc je vois pas du tout ce que l'on aurait pu proposer d'autre. Mais ce qui m'inquiète là, c'est que on va inciter tous les jeunes à aller dans des soirées privées et dans des soirées entre amis, où ça va être du grand n'importe quoi pendant les fêtes, parce que nous sommes fermés pendant les fêtes de fin d'année. C'est surtout ça. Donc, on va inciter des gens à une promiscuité non protégée, tandis que chez nous, il n'y a pas de problème, c'est protégé. Il n'y a pas eu de fermeture administrative d'établissements qui ne respectaient pas les règles, il n'y en a pas eu.
Un dernier mot, Monsieur Malvaès, les discothèques avaient déjà beaucoup souffert, vous l'avez dit, vous n'avez rouvert qu'au début du mois de juillet, donc il y a eu beaucoup de casse, pardon de le dire comme ça. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous, dans le milieu de la nuit et des lieux de loisirs?
Il y a eu une très forte reprise à partir du mois de septembre, qui a été un ballon d'oxygène qui a aidé les entreprises et qui a empêché 100 à 150 établissements de disparaître. Bon, ces 100 à 150 établissements vont disparaître demain. Donc on va en être aux alentours de 350-400 établissements qui auront disparu sur 1600, c'est-à-dire 25% du parc. Ce qui me gêne là-dedans, c'est la vocation. Alors bon, il y a l'aspect économique, bien sûr. Je suis représentant du plus grand syndicat des établissements de nuit, donc je sais bien que c'est l'enjeu économique qui est important, mais il faut voir au-delà. On est quand même des citoyens. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est tous les effets pervers qui sont liés par ça. C'est un racisme anti-discothèque qui conduit à des mesures, à des effets pervers. Et les gens vont se retrouver entre eux. Et ça me gêne beaucoup. Nous, on ne pouvait pas proposer grand-chose de plus. Je crois qu'on a fait le tour de la question. au niveau du personnel, au niveau de tout ça, quoi.
Merci à vous, merci beaucoup Patrick Malvaes, merci de votre passage dans le téléphone sonne Odile Launay. On peut comprendre le désarroi des patrons de discothèques parce qu'ils sont tout seuls. Et dans ces cas-là, évidemment, on se dit pourquoi nous ? Maintenant, vous, avec votre casquette d'infectiologue, est-ce que vous dites il y a les discothèques, il y aurait pu y avoir deux ou trois autres lieux de rassemblement qui pouvaient rentrer dans ce lot-là ? Ou est-ce qu'effectivement, là, on est dans l'exemple type de ce qui est extrêmement dangereux ?
Il semble qu'on est un peu dans le principe de précaution. Donc, moi, je partage l'avis de monsieur qui est que, finalement, les jeunes, on les empêchera pas de faire la fête et ça se comprend très bien.
Surtout pas au moment de Noël,
hein. Et probablement que le risque va être plus élevé si c'est des fêtes, entre guillemets, sauvages, où, pour le coup, il n'y aura aucun contrôle et aucune mesure sanitaire. Donc, j'entends bien... Et pourquoi les discothèques et pourquoi pas les bars et voilà et les salles de sport, c'est vrai que ça paraît peut-être une décision un peu partiale. Moi, j'ai pas d'autres choses à dire.
Si vous aviez le choix, vous, est-ce que vous auriez par exemple réinstauré un télétravail un peu plus strict ou pas ? Ou est-ce que ça joue selon vous ?
Objectivement, je crois que le télétravail a beaucoup d'inconvénients à la fois pour les employés et les employeurs. Ça a un impact important sur la... Donc ça paraissait difficile de remettre en place un télétravail plus fréquent. Donc là, c'est une incitation au télétravail. Non, et moi je partage ce que dit monsieur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits où les passes sanitaires sont pas contrôlés et qu'il y a eu beaucoup de triches, on le sait. Voire pas contrôlés du tout.
Mais peut-être que c'est là, effectivement, qu'il faut regarder insister. Les choses et voilà, insister.
Le pass sanitaire, c'est pas juste quelque chose comme ça pour faire plaisir, mais ça a un vrai impact. Peut-être qu'il vaut mieux, il faut plus l'expliquer dans ce sens-là.
Et regardez donc plus avant. Merci beaucoup, Odile Launay. Merci à RVAS également. C'était un plaisir. Merci pour vos très nombreuses questions.